Merci Anne Fauquemberg, on vous retrouve à 9h pour le journal. L'Euro 2016 et les Bleus au menu du secret des sources aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Mais pourquoi rien ne se passe normalement avec le foot et l'équipe de France? On a envie de la soutenir, de vibrer avec elle, et c'est arrivé de la plus belle des manières avec un doublé historique, champion du monde, champion d'Europe en 98 et en 2000. Cela, c'est le meilleur, mais il y a aussi le pire lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y a 6 ans. L'affaire du bus de Naïsna, les joueurs refusent de s'entraîner en prenant les caméras de télévision du monde entier à témoin, la première grève de milliardaires qui a peut-être encore du mal à passer aujourd'hui, et puis plus récemment, les Bleus de l'équipe de France et leur entraîneur Didier Deschamps ont vécu une préparation de l'Euro tourmentée avec une série de déclarations qui ont déclenché une polémique spectaculaire mettant en cause la probité du sélectionneur des Bleus, soupçonné d'avoir cédé à une partie raciste de la France en composant sa sélection sans Karim Benzema. Euro 2016, le côté obscur du foot et des Bleus, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités, tous grands spécialistes du football et de l'équipe de France. Dominique Sévérac, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Parisien et vous publiez La face cachée des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France aux éditions Mazarine. Vincent Duluc, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à l'équipe et votre livre Au cœur des Bleus, consacré aux sélectionneurs de l'équipe de France, vient de paraître chez Stock. Alexandre Pedro, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à SoFoot. SoFoot qui publie ce mois-ci le guide très très sûr de l'Euro 2016. Sébastien Hazard, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Journaliste au service des sports de Radio France, et en cours d'émission nous rejoindrons Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin, où la préparation de l'équipe nationale, la Mannschaft, a également été perturbée. Notre regard extérieur qui nous accompagne aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias et directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Le rendez-vous clin d'œil de Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission. Chloé Leblond, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Véronique Lavalard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
C'est fini, monsieur l'arbitre. Le match est terminé depuis exactement 40 secondes. L'équipe de France, championne d'Europe de football.
Ce métier de journaliste sportif, spécialiste entre guillemets de football, eh bien, de temps en temps, nous perdons la tête. Mais moi, je l'admets complètement, c'est-à-dire parce que c'est une passion qui est démesurée.
Les gens qui vous écoutent, ils ont juste envie que la France gagne. Donc, comment, ce serait presque déplacé d'être un peu dans la mesure, alors que l'événement ne se prête pas à la mesure, mais se prête plutôt à l'excès.
Les Français ont l'air complètement anéantis sur le terrain.
Moi, je trouve qu'à partir du moment où le ballon entre dans la surface de réparation, il y a danger pour la défense adverse, il y a espoir pour les attaquants, et c'est normal que le type qui commente monte d'un ton.
Le secret des sources.
Voilà, l'événement se prête à l'excès. Vous avez reconnu notamment les voix de Jacques Vendroux et d'Eugène Saccomanno. Alors franchement, c'est vrai, une majorité de Français, une grande majorité sans doute, a envie de s'enflammer aussi, comme les commentateurs sportifs, et de supporter les Bleus. Mais on n'y arrive peut-être pas toujours à cause de l'image que renvoient les joueurs de l'équipe de France. Est-ce que pour vous, journalistes qui suivez les Bleus, à Clairefontaine, lors des conférences de presse, et puis bien sûr au stade, lors des rencontres, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plaisir à suivre les Bleus, Dominique Sévérac, du Parisien?
Ah oui, j'ai le plaisir intact à les suivre. C'est un peu mièvre, c'est un peu lisse parfois, mais l'histoire recommence. C'est toujours peut-être la même histoire, mais ça recommence à chaque fois. Il y a de nouveaux sujets, il y a de nouveaux visages. Là, en plus, on est dans une phase de rédemption du point de vue de l'image. Deschamps et la Fédération ont quand même bien redressé le truc, hein, la barre. Donc oui, je prends vraiment du plaisir à aller écouter tout ça, même si c'est évidemment au cours d'un entretien individuel avec le sélectionneur ou avec les joueurs que je prends le plus de plaisir et que je fais vraiment mon métier. Quand je vais en conférence de presse, c'est surtout fait pour les télévisions, les chaînes d'infos en continu, c'est pour remplir. C'est pas là où il va se dire quelque chose, mais parfois il se picore quelque chose quand même.
Vincent Duluc, pour l'équipe, on sent que la presse est plutôt bien disposée vis-à-vis des Bleus en ce début d'Euro. Les titres de votre journal, l'équipe, cette semaine, c'était « Les Bleus sont favoris », « Euro 2016 refaire l'histoire », ça c'était hier, vendredi, et le papier que vous signez est titré « Un magnifique vertige ». Est-ce que le titre « Refaire l'histoire » signifie qu'on oublie toutes les polémiques et qu'on ouvre une nouvelle page blanche ?
Mais c'est forcément un titre à plusieurs entrées, effectivement. Il y a un peu l'idée d'une page blanche. C'est quand même une idée qui n'a pas été très facile à porter tout au long de la semaine, parce qu'on va quand même dire que dans le pays, il y a quand même un peu un contraste entre cet euro qui se présentait et les trains qui n'arrivaient pas, et les poubelles qui n'étaient pas ramassées, le métro qui était en grève, et les discours apeurés sur la sécurité. Donc voilà, on a gardé cette ligne-là, mais elle n'a pas été forcément facile à garder tout au long de la semaine.
Sébastien Hazard de Radio France. Alors vous avez beaucoup de chance, vous suivez aussi l'équipe de France de football. Vous passez vos journées la plupart du temps à Clairefontaine. Est-ce que, selon vous, un engouement est en train de naître autour des Bleus ?
De renaître, oui, clairement. Alors, il y a une période difficile entre 2010-2012, c'est réapparu le match de barrage contre l'Ukraine. Réellement, parce que tout le monde pensait qu'ils allaient perdre, finalement, ils se qualifient, etc.
Ça, c'est 2013.
C'est, 2013, et puis la Coupe du Monde. Il y a des chiffres quand même. Quand on regarde Biarritz, le début de la préparation, pour voir 17 joueurs s'entraîner en fin d'après-midi, certes c'était gratuit, mais il y avait 9000 spectateurs qui étaient présents 4 jours de suite. Alors c'est pour essayer d'avoir des autographes, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ils sont allés à Vincennes après, à l'hippodrome, pour répondre à l'invitation d'un sponsor. Il y avait 15 000 personnes qui étaient présentes. C'était pas pour voir les courses de chevaux, parce qu'un vendredi classique à Vincennes, c'est 5 000 personnes. Là, il y avait un peu plus de 15 000 personnes, il y avait tellement justement d'engouement qu'il a fallu interrompre la séance de dédicace. Donc oui, c'est pas simplement les journalistes qui ont un peu envie de s'emballer pour l'équipe de France. Il y a un engouement, il y a une vraie effervescence populaire autour des Bleus.
Il y a un engouement, est-ce qu'il y a un effort des Bleus ou de la Fédération en leur disant, vous enlevez vos casques sur les oreilles, on ne va plus voir ça, vous allez signer des autographes, vous êtes plus proche, plus souriant, plus près des joueurs.
Il y a une charte qui a été réécrite, il y en a eu plusieurs des chartes au cours des dernières années. Il y a une charte mise en place en 2013 qui est placardée sur les murs des chambres partout où les Bleus se déplacent, que ça soit à Clairefontaine ou en province, en région. On leur dit pas, on les prend pas entre quatre yeux pour leur dire enlevez vos casques, mais ils ont fini par le comprendre. La fédération a fait beaucoup de choses depuis plusieurs années pour renouer ce lien, parce que ce lien c'est de l'argent. Savoir mieux, avoir une belle image de l'équipe de France, c'est la vendre mieux auprès des sponsors et auprès des diffuseurs qui sont les mannes financières essentielles de la fédération. Donc c'est très important pour eux. Et voilà, il y avait une arrière-pensée derrière tout ça, c'était l'argent.
Alexandre Pedro de SoFoot. Alors, votre cœur balance entre l'équipe du Portugal et l'équipe de France. Il balance peut-être plus d'un côté, mais est-ce que votre magazine est aussi indulgent en ce début d'euro? Vous avez pris une politique éditoriale, une ligne éditoriale d'indulgence.
On a sorti un numéro spécial équipe de France au mois de mai, avec un titre qui était Faites-nous plaisir, parce qu'il y a dans cette équipe de France quelque chose d'assez qui peut être enthousiasmant sur le papier, avec les joueurs qui la constituent, son style de jeu, une équipe plus offensive, presque déséquilibrée dans sa composition, mais qui est capable de donner du plaisir au pays. Donc on a envie sur le papier d'y croire. Après, on est assez lucide, on sait que au foot, c'est un sport où tout va très vite. En 98, on passe à une frappe de Baggio à 20 cm près d'être éliminé en quart de finale. On refait pas l'histoire avec la France Black Bomber. Aimé Jacquet ne devient pas un saint. Donc voilà, la France peut gagner ses trois premiers matchs de poule, être éliminé en huitième de finale sur un coup du sort, une frappe déviée, une erreur d'arbitrage. Et après, on refera l'histoire, évidemment. Donc, pour l'instant, on essaie juste de profiter du moment présent.
Alors, les dernières polémiques en date de l'affaire Valbuena et la sextape aux accusations de discrimination ou de racisme d'Éric Cantona, puis Jamel Debbouze et Karim Benzema, point de départ de toutes ces polémiques. L'affaire de la sextape, une vidéo de sexe, une vidéo intime.
Ce qui se passe, c'est simple, c'est que j'entends qu'il y a une vidéo
qui tourne sur lui. Donc je viens le mettre au courant. Mais quand je viens le mettre au courant, il a l'air d'être déjà au courant de cette histoire. Je lui dis que je pouvais l'aider. Donc après, que j'entende que j'ai fait du chantage, que je lui ai demandé de l'argent, ça, ça me rend fou en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Et que mon ami aussi aurait eu besoin d'argent ou je sais pas quoi, ça c'est n'importe quoi. Parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. J'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour.
Voilà, Karim Benzema sur TF1 en décembre dernier. C'était pour rendre service. Dans ce livre que vous publiez, La face cachée des Bleus, Dominique Sévrac, dans votre livre, on apprend que les vidéos de sexe, les joueurs en font pratiquement tous, ils en ont pratiquement tous sur leur portable et ils la montrent pratiquement tous aux amis, aux joueurs de l'équipe de France.
Oui, parce que le sexe est un thème fédérateur de discussion le soir, la nuit tombante à Clairefontaine, une fois qu'on a éclusé d'autres sujets, il revient toujours le même. Et on se montre parfois entre joueurs ces vidéos intimes, les filles qu'on a croisées, les filles qu'on aimerait croiser. Donc oui, c'est les sextapes, ça a toujours été depuis qu'il y a des téléphones, des smartphones, il y en a eu plusieurs de joueurs qui ont même été un peu dans les mêmes dispositions que Valbuena. Djibril Cissé n'a jamais caché qu'il avait eu aussi lui un chantage à la sextape. Donc voilà, c'est pas le premier joueur, c'est pas le dernier joueur qui en fera une.
C'est pour faire partie du club, c'est pour montrer qu'on est un footballeur, un vrai, un dur.
C'est un lien d'appartenance au milieu, c'est-à-dire que quand vous faites une sextape et que vous la montrez, vous dites que vous êtes un footballeur. Là, il y a la montre, il y a la voiture de sport, il y a plusieurs manières de dire je suis un footballeur et de signe de reconnaissance. La sextape en fait partie, pas chez tous, pas chez tous les footballeurs, mais chez la plupart.
Alors pour ne pas noircir le tableau, certains joueurs aussi s'investissent auprès d'associations caritatives. Ils ne sont pas tous obsédés par l'argent ou les montres. Ce n'est pas incompatible, vous avez raison. Mais Vincent Duluc, cette affaire de la sextape de Valbuena, c'est une non-affaire alors ?
Non, c'est pas une non-affaire. C'est une affaire qui trouble la vie de l'équipe de France. Vous pouvez pas construire une équipe qu'on l'avancante est mis en examen parce que meneur de jeu a porté plainte. Pour moi, ça s'arrête là. Et à partir de là, il est impossible que les deux soient là. Alors évidemment, ça crée une espèce de confusion un peu immorale entre la victime et le coupable. Mais moi, à partir du moment où l'affaire a été révélée, pour moi, il était impossible qu'il reste en équipe de France. Donc si, c'est une vraie affaire. Après, on veut la présenter comme une affaire qui révèle les mœurs. Je trouve que ce qui a pu faire mal aux footballeurs, c'est la publication des écoutes. Pas tellement parce qu'elle révélait une culpabilité, mais elle disait qui ils étaient vraiment et comment ils se comportaient vraiment. Ça, je pense que ça fait du mal à l'image. Parce qu'il y avait tous les codes de langage, il y avait beaucoup de choses qui ont touché leur image. Autant en public, ils ont une communication lisse, autant là, effectivement, les conversations privées révélaient beaucoup de choses. Et pas seulement celle de Benzema, on va dire. Tout autour, les trois pieds nickelés qui ont été impliqués dans le chantage, qu'on regarde leur écoute entre eux et qui parlent des autres footballeurs qui sont ni Benzema ni Valbuena, ça décrit un entourage absolument incroyable.
C'est le cancer du football aujourd'hui, hein, c'est les entourages.
Dominique Sévrac, oui.
Les entourages, les gens qui gravitent autour de ces nouveaux millionnaires, qu'ils le deviennent à 20 ans, à 25 ans, de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, de plus en plus d'argent, ça attire évidemment tout un tas de gens obscurs.
J'ai eu la chance de lire les auditions, puisqu'une des parties impliquées me les a fait lire. Je pense que Dominique a dû les lire aussi.
Une partie a été publiée
mais encore une autre partie, il y avait un cabinet d'avocats. Et il y avait je vais les appeler les pieds nickelés, on va dire, c'est un terme générique, ça ira plus vite. Et il y en a un à qui le juge d'instruction demande, mais comment ça se fait, vous êtes au RSA, comment ça se fait que vous ayez une Audi A4, je sais pas quoi. Il dit, mais ça, c'est monsieur Djadjadjé qui me l'a donné, un joueur de Marseille. Il dit, vous l'a donné? Oui, il en avait trop. C'est à peu près ça. Et votre travail, c'était quoi? Je customise des écouteurs Louis Vuitton. Vous avez un accord avec Louis Vuitton? Oui, je connais le vendeur du magasin de Marseille. Et c'est tout comme ça. Et il est arrivé à vendre ça 3000 euros à des footballeurs alors qu'il payait les écouteurs 200 euros. Et ça révèle quand même ce qu'est le foot aujourd'hui et ce qu'est l'entourage. Et comme dit Dominique, s'il y a une chose qui peut faire très très mal aux footballeurs et au football, c'est quand même leur entourage.
Sébastien Hazard de Radio France, les supporters, vous étiez à Nantes lors du premier match de préparation, juste avant l'Euro, puis à Metz pour le second. Est-ce que les supporters demandent toujours le retour de Benzema et le départ de Giroud ?
Alors, ça a changé. C'est vrai que pendant un moment, Olivier Giroud, bah, c'était surtout à Nantes hein, où il s'était fait siffler. L'opinion publique est quand même versatile. Ça change en fonction des résultats. Et pourquoi on a une bonne opinion de l'équipe de France, juste, c'est aussi parce qu'il y a un peu plus de résultats. Les écarts, on les oublie un peu plus. Après, sur Olivier Giroud, il vient de marquer deux buts. Il vient de marquer deux buts lors du dernier match amical. Effectivement, il a retourné un peu l'opinion publique. Sur Benzema, parmi toute la préparation, il y a un joueur qui manque au public, c'est Ben Arfa. C'est pas forcément Benzema. Ben Arfa, les gens ne comprennent pas trop. Benzema, de toute façon, il faut quand même être lucide.
Ben Arfa est dans la liste des 8
remplaçants. Mais qu'il soit pas
dans les 23.
Dans les 23 l'Euro. Sur Benzema, faut quand même être lucide. Si la fédération a renoncé à convoquer Benzema pour l'Euro, c'est parce que l'opinion publique était aussi contre lui et qu'ils avaient peur, que la fédération avait quand même peur que l'équipe de France soit sifflée durant l'Euro. C'est pas tant sur la faute morale, sur le fait qu'il soit mis en examen, parce que jusqu'au bout, jusqu'au dernier rassemblement des Bleus avant l'Euro, Benzema était quand même dans les cartons pour l'Euro.
C'est vrai.
Vincent Duluc, on parlait des accusations de racisme portées par Karim Benzema vis-à-vis d'Didier Deschamps, juste après, quelques jours après ce qu'avait dit Eric Cantona. Il aurait cédé, dit-il, à la pression de la partie raciste de la France. C'est absurde, selon vous ?
C'est surtout organisé, c'est surtout de la communication organisée, c'est un élément de langage qui n'appartient pas à Benzema. Moi, je pense que Karim Benzema est fondamentalement un type bien, je vous surprends. Je pense vraiment que c'est un type bien. Je pense que il est complètement persuadé qu'il n'a rien fait de mal. Je suis persuadé, pour lui, il a fait que des choses normales, il n'a vraiment rien fait de mal et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais là, dans sa manière de se défendre, c'est un élément de langage qui ne lui appartient pas. Pour moi, appartient plutôt à son entourage, pour le coup. Et son entourage sait très bien que s'il ne dit pas que Deschamps est raciste, il provoque le buzz autour de la possibilité qu'il le soit, ce qui revient exactement au même. Et c'est ça le problème. Il ne faut même pas nier que ça soit vrai, parce que ça ne servira à rien. On ne doit pas accepter de répondre sur ce débat-là. Mais si on veut défendre, tout le monde sait que Didier Deschamps a perdu son frère, mais tout le monde sait que son véritable frère, c'est Marcel Desailly. Rien n'a de sens dans tout ça, mais effectivement, il faut même pas nier qu'il le soit, ça sert à rien. C'est un mauvais débat.
Comme l'a dit subtilement Vincent, son agent cherchait le moyen de se venger depuis la non-convocation de Karim Benzema en équipe de France, qu'il a cherché par tous les moyens. Parfois, il a souvent tapé à côté, et puis là, il a trouvé le bon angle d'attaque, visiblement, hein, puisque ça a été repris, c'est de faire croire que Benzema n'avait pas été convoqué parce que Deschamps aurait cédé à une partie raciste de la France. Donc voilà, ça a fait beaucoup de tort à Deschamps, à son image. Il y a eu des tags racistes sur sa maison à Concarneau. Donc, c'est juste une histoire de vengeance personnelle.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Alors, ces accusations de racisme supposé, des polémiques nauséabondes, comme on peut le lire dans la presse, ne touchent pas que la France. Ces questions d'identité et de racisme supposé autour de l'équipe nationale ont également été posées en Allemagne autour de la Mannschaft, l'équipe nationale. En retour à Berlin, notre correspondant Cyril Sauvageau. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors, en Allemagne, le parti populiste et anti-migrant, l'AfD, a mis en doute la loyauté de certains joueurs issus de l'immigration.
Oui, il faut croire que l'équipe d'Allemagne n'est plus assez blanche de peau pour l'AfD. Un des dirigeants du parti populiste, Alexander Gauland, a fait scandale ici il y a 2 semaines en s'en prenant à un pilier de la Mannschaft, le défenseur d'origine ghanéenne, Jérôme Boateng. Les gens l'apprécient comme joueur de foot, a déclaré Gauland, mais personne ne voudrait Boateng pour voisin. Cette petite phrase purement raciste, hein, il faut bien le dire, a mis le feu aux poudres. La patronne de l'AfD, Frau Köpetri, s'est tout de suite d'ailleurs désolidarisée. Mais Gauland est revenu à la charge quelques jours plus tard pour dire cette fois-là que la Mannschaft n'est plus une équipe typiquement allemande. Allusion à la présence dans l'effectif de plusieurs fils d'immigrés, notamment les Turcs Özil et Gundogan. C'est une polémique absurde quand on sait qu'il y a 2 ans, l'Allemagne championne du monde se réjouissait au contraire d'avoir suivi en quelque sorte le modèle black-blanc-beurre de la France en 98 en intégrant davantage de joueurs issus de l'immigration. Au bout du compte, l'AfD s'est plutôt ridiculisée dans cette affaire. Gauland Hollande fait l'unanimité contre lui. Au Parlement régional du Brandebourg, où il siège, on a vu cette semaine un député de la CDU venu avec le maillot de Boateng en signe de protestation. Et puis, selon un sondage qui vient de paraître, 88% des sympathisants de l'AFD n'auraient rien du tout contre le fait d'avoir Boateng comme voisin.
Cyril, la polémique s'est même étendue au bar chocolaté Kinder, une opération de pub dénoncée par Pegida, l'extrême droite.
Alors là, on a touché le fond du ridicule avec cette polémique autour des nouveaux paquets de Kinder. C'est une série limitée à l'occasion de l'Euro, avec des visages des joueurs de la Mannschaft, Özil, Boateng, à la place de l'éternel petit blondinet des pubs Kinder. Il n'en fallait pas plus pour mettre en colère les militants de Pegida, qui n'ont pas reconnu les joueurs, mais qui ont vu dans cette campagne une nouvelle preuve de ce qu'ils appellent le grand emplacement. Vous comprenez, même si les pubs Kinder s'y mettent, alors vraiment, il n'y a plus rien de sacré. Là non plus, l'extrême droite ne sort pas grandie de cette affaire, qui a donné lieu à toute une mobilisation anti-Pegida sur les réseaux sociaux, avec des détournements de pubs en tout genre et des milliers d'Allemands d'origine étrangère qui étaient appelés à partager sur les réseaux sociaux leurs photos d'enfance pour montrer qu'on peut être d'origine turque, iranienne, polonaise et symboliser aussi la famille allemande d'aujourd'hui.
Merci Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin. Alors on l'a dit, les accusations portées contre Didier Deschamps sont totalement infondées. Mais, Dominique Sévrac, est-ce que du racisme existe dans le monde du football? On se rappelle de l'affaire des quotas, où les cadres techniques se plaignaient d'avoir à former trop de joueurs noirs. Et puis, Dominique Sévrac, il y a la révélation que vous faites sur Jean Tigana, le héros des championnats d'Europe de 84, l'un des héros.
Oui, j'ai souvent suivi la nomination des sélectionneurs. Ça se passait lors de conseils fédéraux, c'est-à-dire le gouvernement du football français. Aujourd'hui, ça s'appelle un comité exécutif. Et donc, la fédération, une quinzaine de membres sont chargés de trouver un successeur à chaque fois, à celui qui part ou celui qu'on vire. Et le nom de Jean Tigana est souvent revenu dans les conversations. C'était un ancien membre du Carré Magique qui a gagné l'Euro 84. C'est un joueur formidable. Et qui a fait une carrière d'entraîneur après. Et son nom a été retoqué très souvent. Et donc, on a enquêté pour savoir pourquoi. Et un vice-président de la fédération un jour m'a dit, mais comme s'il était en train de me dire quelque chose de normal. Hein, pour lui, c'était comme, est-ce que vous voulez du café? Bah, parce qu'il est noir. Donc, on ne prend pas Jean Tigana parce qu'il est noir. Et c'était un avis assez répandu.
C'est pas la raison, Dominique.
C'était un avis assez répandu au sein des arcanes du football français.
Qu'il soit noir, c'était un avis répandu. Oui, je suis d'accord.
Et qu'il soit refusé à cause de ça aussi.
Mais c'est, en fait, quand même, la réalité, c'est qu'il aurait dû être sélectionneur en 2004, mais que Méjaquet l'avait lâché. Et Méjaquet l'avait lâché parce qu'il voulait que sélectionneur soit issu de la direction technique nationale. Il avait plutôt choisi Domenech, mais Platini avait choisi Tigana. Normalement, tout était fait pour Tigana.
Il avait des appuis, mais je vois qu'il ne l'a jamais été et je pense qu'il ne le sera jamais.
Oui, mais c'est pas la raison. Franchement, il était largement plus casse-couille que noir, Jean Tigana, quand même. C'était quand même plutôt ça qu'il a défini pendant des années et qu'il a handicapé pendant des années.
Moi, je raconte, Vincent, qu'un vice-président m'a dit ça.
Pardon pour la trivialité.
Mais voilà. Un vice-président m'a dit, on ne le prend pas parce qu'il est noir. Un vice-président qui avait une influence considérable.
Mais je vois qui tu veux dire.
Alexandre Pedro, de SoFoot, ce racisme dans le monde du ballon rond.
C'est compliqué à dire parce qu'il suffit de regarder des matchs de Ligue 1 et vous vous dites, s'il y a bien un domaine en France où les gens noirs, maghrébins, de banlieue ont leur chance et ne sont pas stigmatisés sur leur CV, c'est bien le foot. Mais je pense que dans les instances fédérales, j'étais allé à l'inauguration du nouveau bâtiment de Clairefontaine il y a quelques semaines, qu'on voyait l'audience. Il y a quand même beaucoup d'hommes blancs, de plus de 50 ans, grisonnants, très peu de femmes et très peu de gens de la diversité. Donc je pense que dans ces instances fédérales, voilà, les diversités ne sont pas encore vraiment représentées. Il y a aussi assez peu d'entraîneurs noirs pour l'instant dans le football français.
Antoine Comboiré.
Antoine Comboiré, Makelele, qui ça s'est mal passé peut-être parce qu'il y a un problème de compétences.
Bernard Diomède actuellement avec.
Bernard Diomède qui est chez les moins de 17. Peut-être ça va venir. Jean Tigana a souvent parlé de ce problème en disant qu'il était un des rares entraîneurs noirs dans le football français. Donc je ne pense pas qu'au niveau des clubs, il y a un problème de racisme. Mmh. Honnêtement, le football n'est peut-être pas le domaine en France où le racisme est le plus prégnant.
Non, mais il y a beaucoup de dirigeants, parce que moi je connais les ligues, les districts, c'est un monde que je fréquente, voilà, les présidents de ligue, les présidents de district, c'est le club, le football amateur.
C'est le niveau amateur, plus que professionnel.
Et franchement, ce qu'on entend parfois de leur part à la pause café des assemblées fédérales fait froid dans le dos.
Le secret des sources.
Notre regard extérieur, Isabelle Véramasson, historienne et directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, les relations entre la politique et le sport. Manuel Valls, par exemple, a donné son avis sur Karim Benzema. Le sport est un sujet politique.
Oui, c'est un sujet politique, ne serait-ce que parce qu'il y a autour du sport un certain nombre de valeurs, et ces valeurs, les pays, les nations ont voulu se les réapproprier pour leur politique personnelle, pour leur politique de nation. En particulier, évidemment, avant la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que dans l'esprit de Coubertin lui-même, il y avait l'idée que grâce au sport, grâce à ses capacités de réunir les peuples, on pourrait, après la guerre de 70, recréer une situation plus pacifique, plus pacifiste, mais le sport devient, et là, c'est sans ambiguïté, une sorte d'euphémisation du nationalisme ou même parfois de la violence. Et il devient, dans ces moments de tension internationale, un élément des relations internationales. Alors, c'est vrai que le sport est plutôt né dans les démocraties, hein, Athènes, la Grande-Bretagne, et pourtant, et puis aussi, il a donné aux plus modestes les moyens de s'en sortir, on le sait, c'est donc en cela quelque chose qui est plutôt progressiste, et pourtant, c'est surtout les dictatures qui ont vu dans le sport le moyen de se servir de ces valeurs, entre parenthèses plutôt machistes, du sport, pour les mettre au service de leur expansion, de leur désir de montrer leur puissance et leur détermination, puisque le sport, c'est la puissance, c'est la détermination, c'est le sens de l'effort, c'est presque une certaine arrogance dans la victoire qui va rejaillir, c'est ce qu'espèrent les dictatures, sur le pays. D'une certaine manière, les victoires sportives deviennent un indice de la vitalité d'un peuple. Alors les exemples les plus connus sont connus. 1934, Coupe du monde de foot en Italie, qui devient la victoire de Mussolini. 1936, les Jeux olympiques de Berlin, qui deviennent la victoire d'Hitler. L'URSS, qui à un moment, au début, s'était un petit peu méfié des valeurs du sport la création de son pays, devient au contraire porteur de cette détermination de montrer qu'il est le meilleur, quitte à sacrifier, on le sait, la vie pratiquement de ces sportifs. Les pays de l'Est, évidemment, suivent. Les démocraties, elles, jouent également avec les valeurs du sport. On parle d'ailleurs maintenant, d'une certaine manière, de soft power, c'est-à-dire que c'est un élément de leur communication, de leur mise dans la concurrence internationale. Les aspects positifs dans les démocraties, on les connaît. C'est lorsque Mandela va utiliser le rugby pour son entreprise de réconciliation entre les Noirs et les Blancs. On se souvient du film Invictus de 2009. Pour la France, le foot aussi, en 1998, nous a montré une France métissée, black, blanc, beurre. Pour un temps, on a eu le sentiment que les Français acceptaient la nouvelle France qui se présentait pour eux. On dit même, il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'une victoire d'une équipe locale de football augmenterait de 1,6 points le score des candidats sortants en cas de victoire. À condition évidemment que les élections aient lieu, je le dis tout de suite pour François Hollande, 10 jours après seulement la victoire. Donc ça va être difficile. Alors aujourd'hui, la question des relations internationales elle est moins forte. Ces questions de comparaison, de concurrence entre les peuples, entre les pays, est peut-être moins accentuée. En revanche, la question est actuelle, c'est la question de l'identité. Et cette question politique, globale, internationale, va se rejouer sur les stades. Et on se souvient que Le Pen a pu dire qu'il y avait trop de Noirs dans l'équipe de France. Et en revanche, on a dit aussi qu'il n'y avait pas assez, on l'a dit tout à l'heure, d'Arabes dans l'équipe de France. Jamel Debbouze, qui l'a d'ailleurs regretté, a mis au cœur de ces questions de politique, la question de l'identité, la question de la crainte de l'autre, la question de la crainte de la différence, au cœur du sport. La Marseillaise, le patriotisme devient une question politique qui se met à l'intérieur des stades. Et le résultat, c'est quand même que l'Euro, on compte parmi les équipes de l'Euro 35 joueurs d'origine africaine sur les 24 équipes. C'est-à-dire que la nouvelle Europe est là et d'une certaine manière, l'Euro l'exprime.
Et alors, de leur côté, les sportifs, Isabelle Véramasson, ils utilisent aussi la politique.
C'est la deuxième facette, à mon avis, des relations entre le sport et la politique, hein, pour aller vite, évidemment. C'est l'usage que vont en faire les sportifs eux-mêmes. C'est-à-dire que, on le sait particulièrement en ce qui concerne justement les Noirs, ils sont très, très utilisés pour, entre guillemets, en tous les cas très présents dans la vie du sport, et ils vont se servir de cette arène sportive pour se battre pour leurs droits. Le plus connu, évidemment, on en parle beaucoup, surtout hier, Mohamed Ali, ex-Cassius Clay, il va se battre avec ses poings, à la fois contre ses adversaires et contre la discrimination, contre le racisme. En 1968, les Jeux de Mexico, deux coureurs de 200 200 mètres, Tom Nismith, John Carlos, au moment de la victoire, sur le podium, vont lever les bras, leurs mains gantées de noir, la tête baissée, pour signaler et pour dénoncer la discrimination. Ceux qui vont les suivre auront le béret noir des Black Panthers. Lilian Thuram, en 1998, va se servir de cette victoire. Il est le champion du monde, il est le héros. Il va faire de cet héroïsme, de cette victoire, une démarche antiraciste. Il va devenir un militant antiraciste international reconnu. Alors ça, c'est les sportifs qui vont, encore une fois, se servir de cette arène pour parler, pour être... Mais il y a aussi, et là, on est, hélas, on est au cœur de notre actualité, le fait que cette possibilité de rassembler les gens crée une sorte d'appel à la haine, d'appel au danger. Et je crois que ça n'a plus rien à voir avec le sport, mais il est vrai que la violence s'exerce lorsque les gens sont rassemblés à l'occasion de grandes manifestations sportives. Le marathon de Boston, tout récemment, en 2013, on va se servir de ce moment populaire de rassemblement pour tuer. Et bien sûr, on le sait, le Stade de France, en novembre 2015, rien à voir avec le sport, mais l'envie de se servir de ce moment de bonheur pour exercer ce message politique insensé qui est celui du terrorisme.
Merci Isabelle Véramasson. Même cette chanson fait polémique. Le groupe lillois Skip the Use, une reprise de Kiss, I was made for loving you, my team, la chanson officielle des supporters, qui était contestée par le ministre de la Francophonie, mais soutenue par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, Sébastien Hazard. On n'en sort pas des polémiques.
Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on se sert quand même beaucoup du sport pour sa propre promotion. Honnêtement, là, moi je serais plutôt de l'avis de la ministre de la Culture. L'anglais est maintenant, qu'on le veuille ou pas, la langue internationale. Qu'un groupe français chante en anglais et qu'il soit, après cette chanson, soit reprise par les Bleus, je vois pas où il y a une polémique. Mais ce n'est que mon avis.
Alessandro Perro, vous êtes seul à soutenir la chanson à SoFoot ou...
Le foot français, la musique, c'est quand même souvent une relation un peu compliquée et dramatique. C'est-à-dire que on a eu Johnny comme hymne officiel en 98. Les Anglais, ils ont eu quand même des hymnes composés par New Order. Le concert de clôture des JO de Olympique, il y a Blur qui joue. Nous, on a David Guetta.
Bon, Skip the Use, c'est quand même c'est un groupe qui fait
un groupe qui marche. Voilà, qui marche
peut-être pas ce qu'il y a de plus notable dans la musique française.
Bon, il aurait pu avoir Francis Lalanne.
Non, surtout pas, non.
Mais on a eu Marius Trésor qui chantait Sacré Marie aussi.
C'est vrai, mais j'ai pas.
Et je slam avec Joël Batz.
Jolie Murat adore le football, Miossec adore le football. Oui. Voilà, il y a quand même des gens.
Dans ce foot, Miossec, je crois.
Oui, dans ce numéro oui.
Euro 2016, championnat d'Europe 1984.
Ils ont gagné, alors on a gagné. 22h30 hier, Paris et ses champs sont envahis. Aucun événement sportif n'avait donné lieu à de telles scènes de liesse jusqu'à ce 27 juin. Et quand on a gagné, tout est permis. Exubérance déshabillée pour terminer par un bon bain. Chacun fait à sa manière, les héros et surtout le héros des héros. Jean Tigana. Lui n'apparaît pas au palmarès des buteurs de ce championnat d'Europe. Il n'a pas marqué, il a fait marquer. Et surtout, surtout, il a...
Voilà ce que l'on vient d'entendre. Bien aujourd'hui, c'est impensable, parce que c'est le journal de 20h, d'Antenne 2, à l'époque, journal du 28 juin 1984. Le lendemain de la victoire de l'équipe de France au championnat d'Europe de football, à l'époque, c'est le premier titre majeur des Bleus. On entend Roger Zabel. Et le reportage est diffusé en fin de journal, après le Proche-Orient, après la loi Savary, après un fait divers. Et aujourd'hui, à 20 minutes, hein, 20 minutes avant, juste avant la fin du journal, aujourd'hui à la télévision, ben, on voit des présentateurs, des journalistes habillés en supporters, en bleu, blanc, rouge. On ne compte plus les débats autour de l'équipe de France. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'excès inverse, Dominique Sévérac?
Estimez-vous heureux, hein, parce qu'en Espagne et en Italie, ça serait pire. Hein. C'est véritablement une religion. Non, voilà, ça marque le développement du PAF français. C'est-à-dire que les chaînes d'infos continuent, Internet, tout ça aujourd'hui a pris une importance considérable. Et le foot, qui est devenu un phénomène de société, on l'a vu en 98. On a dit que ça ressemblait à la libération de Paris.
C'est vrai, oui.
Donc voilà, c'est quand même, il y a que cette activité en France qui est capable de réunir les gens dans un esprit festif et joyeux, il me semble. Hein.
Ouais. Vincent Deluc.
Moi, je pense qu'il y a eu deux phénomènes contigus. D'une part, effectivement, c'est le bouleversement du décor médiatique, effectivement, avec les sites, avec les chaînes, avec les journaux, avec tout. Mais d'autre part, c'est aussi le fait que en 1984, nous sommes un pays où la culture du sport n'existe pas. Elle peut commencer à se construire un peu, mais elle n'existait pas, en tout cas dans ces années-là. Dans les années 60-70, il y avait un mépris de la classe intellectuelle et politique pour le sport qui était considérable, du moins pour le sport de compétition qui était considérable. Donc en 84, on en était encore là. En 98, la confusion est arrivée. Je pense qu'on a confondu la culture du sport et la culture de la victoire. En fait, 98 a créé une culture de la victoire et c'est cette culture-là finalement qui suscite le malentendu qu'aujourd'hui on est en train de disséquer débat après débat.
Et il y a une différence entre la culture de la victoire et une nation de foot. La France est devenue une nation de foot. En 98,
on s'est découvert une passion pour le sport, mais on n'est pas une nation de sport. Le sport, c'est au-delà du football. Le sport n'est absolument pas important. Malheureusement, hein, je le regrette, mais c'est pas le sujet qui est important. On n'est pas sportif, on n'est pas un peuple de sportifs. Vous allez dans les autres pays à l'étranger, vous voyez des gens qui courent partout. On parlait de l'Espagne avec le football, c'est une religion. On n'est pas un peuple de sport. On s'est pas transformé un peuple de sport. Le symbole de la lutte des deux plus célèbres universités anglaises, c'est quoi? C'est une course d'aviron. Vous imaginez ça en France? Jamais.
Oh, mais c'est très snob, on est quand même plus populaire.
Non, mais ça pourrait être un match de...
Oxford-Cambridge, ça peut quand même pas être un modèle de nation sportive non plus.
Non, mais l'intégration du sport dans la société anglaise est quand même bien plus importante.
Évidemment. Mais d'ailleurs, le sport est tellement important pour les Anglais qu'il n'y a pas de quotidien spécialiste. Voilà. Les généralistes n'auraient jamais laissé un spécialiste en emparer.
Alessandro Pedro, vous me disiez en préparant l'émission, il y a en France, il y a le sport et il y a le foot.
Non, dans le monde en général, il y a le sport et le foot. Le foot n'est pas un sport, c'est un phénomène culturel de masse. Et l'identification, elle se fait par rapport à l'équipe de France, par l'équipe nationale de foot. Donc moi, je suis considéré comme un mauvais français par mes camarades parce que je supporte le Portugal et non pas la France. Alors je supporte la France dans tous les autres sports, que ça va de Martin Fourcade au biathlon à l'équipe de France de rugby.
C'est parce qu'il n'y a pas de Portugais au biathlon.
Voilà, il y a très peu de Portugais au biathlon, on est assez faible en montagne. Mais on m'identifie par rapport au foot comme portugais. Alors que c'est juste un choix finalement de cœur par rapport à des racines. C'est-à-dire que le foot, c'est vraiment un phénomène culturel qui vous identifie à votre équipe nationale et de club. Un peu moins en France parce qu'on est moins identifié par rapport à son club. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en France, la jeune génération, elle ne supporte pas le club de sa ville, mais un club étranger. Ça peut être Arsenal, Barcelone. Une sorte de culture mondialisée qui se fait et qu'on demande à un enfant qui a grandi dans le 14e, tu supportes le PSG, dis non, je supporte le Bayern de Munich ou Arsenal.
Les rapports aujourd'hui entre nous, journalistes, ou plutôt vous qui êtes auprès d'eux et l'équipe de France de football et les joueurs, les Bleus, se sont améliorés
On est dans une phase où ça se passe bien. Une phase où il n'y a pas tellement d'animosité, ça peut encore...
Ça tient au sélectionneur avec Dominique, c'était extrêmement compliqué.
Ah oui, il était dans la confrontation, dans le rapport de force, dans la joute verbale avec les journalistes. Peut-être que Vincent ne sera pas d'accord, mais il était vraiment il aimait le combat.
Oui, il était vraiment dans la provocation et dans la tension. il supportait pas les moments de tranquillité, en fait. Je pense qu'il a vraiment une psychologie qui fait que les moments de tranquillité l'inquiètent et que du coup, inconsciemment, il cherchait quelque chose qui puisse allumer un peu le feu.
Et une communication agressive, quand même, qui passait mal.
Oui, bien sûr. Mais, tourné un peu contre lui aussi.
Mais si on fait la différence entre le sélectionneur et les joueurs, on va dire que ça se passe bien, mais que, En 10, 15, 20 ans, on a perdu complètement la proximité. À la Coupe du Monde 2014, je pense, Dominique, t'es comme moi, j'ai pas approché un joueur à moins de 20 mètres. En 1992, on jouait tous les matins au foot contre le staff de Platini et les joueurs, on pouvait aller boire un verre au bar de l'hôtel. Donc voilà, on a perdu ça quand même.
Le business a éloigné les journalistes des joueurs.
Les joueurs ou les agents choisissent les journalistes ?
Oui.
Oui. Ouais. Oui, clairement.
Les agents, les joueurs, oui, clairement.
Et vous pouvez pas avoir un joueur sans passer par son agent, à moins d'avoir tissé.
Sauf exception.
Voilà.
Loris, je connais même pas son agent.
Voilà, parce que Vincent a tissé à Lyon quand Loris était gardien de Lyon. Par une relation.
Par une marque.
Ou par une marque. Ouais.
Maintenant, c'est assez fréquent. Nous, ce foot, on existe depuis 13 ans. On a créé Society l'an dernier. Et exemple très concret, on a réussi à avoir François Hollande dans le numéro 2 de Society. On a mis un an et demi pour avoir une interview de Paul Pogba. C'est plus facile de parler à un ministre qu'à un joueur de l'Olympique de Marseille.
C'est exactement
ça. C'est devenu un monde très très fermé. Donc je le préviens aux stagiaires qui arrivent, je leur dis, si tu veux être journaliste dans le foot, je te préviens que 9 fois sur 10, la personne en face ne répondra pas à son téléphone. Et encore, tu auras de la chance.
Avoir Zlatan quand il était encore au PSG, Zlatan Ibrahimovic, qui est un joueur suédois, qui serait là pendant l'Euro pour
défendre. Il vient parler au monde, là.
Pour défendre, ouais. Voilà. Et ben, c'était très compliqué. Il est resté 4 ans, il a accordé 2 interviews à l'équipe, quand même le seul journal sportif français, et une interview au Parisien.
Vincent Duluc, comment ça va avec Aimé Jacquet? Parce que vous faites le portrait de plusieurs entraîneurs et vous dites, je l'ai pas rencontré, Aimé Jacquet.
Je l'ai pas rencontré parce que d'abord, il rencontre plus personne. C'est vrai. Il s'est retiré dans ses montagnes. Ouais. Et effectivement, il n'accorde plus d'interview. J'ai pas lu une interview de lui depuis vraiment très très longtemps.
Parce qu'il y a eu une polémique très violente entre
mais
le
nous,
journaliste.
Effectivement,
il y a la Coupe du Monde.
Il y a un historique depuis la Coupe du Monde 98 où il a concentré sur nous tout le ressentiment accumulé pendant toute l'approche de la compétition. Nous étions pas les seuls à avoir écrit ce qu'on a écrit. C'est à nous qu'il l'a reproché. Il faut le prendre plutôt comme presque un compliment. Très, très sincèrement, je pense qu'il a considéré qu'il était trahi par la famille. Pour lui, l'équipe faisait partie de la famille. Il avait grandi en...
Vous étiez plus violent aussi.
En lisant ce journal-là. Plus violent que François? Non, bien sûr que non.
Ah, vous étiez extrêmement violent.
Mais non, Dominique, c'est une plaisanterie. Est-ce que tu veux qu'on compare ce qu'on a écrit sur Aimé Jacquet, ce que tu as écrit sur Raymond Domenech? Est-ce que tu as envie qu'on compare?
J'aimerais bien.
Ah, mais attendez. Il y a d'un côté une boucherie, de l'autre côté, c'est de la machine à tricoter.
Les pro-Jacquet, les pro-Domenech.
C'est la machine à tricoter. Non, c'est l'époque qui a changé. Et un autre truc, on a dit que c'était un brave type qui émettait des soupirs.
Non, je me souviens d'une attaque d'un papier de Vincent Duluc, qui était un papier extraordinaire. Il était difficile de faire pire, point. Et Aimé Jacquet l'a fait.
C'était, je me souviens pas.
C'était après ça.
Mais même
c'était difficile de faire
pire.
Aimé Jacquet l'a fait. Donc vous êtes en train de dire que.
Mais si c'est ça le sommet de la violence,
moi j'ai écrit pire. Tous
les soirs, quand même. Oui, c'est différent.
Une dernière question. Donc le prochain match, c'est France-Albanie. Deschamps peut faire aussi bien qu'Aimé Jacquet avec l'équipe qu'il a aujourd'hui.
Oh, il y a la possibilité vraiment de gagner 7 euros sur l'élan populaire qui est dès le départ. Alors qu'en 98, il a fallu attendre les derniers matchs pour que la France se réveille. Là, depuis Biarritz, comme l'a dit Sébastien, il y a un mouvement populaire. Il y a un talent considérable. Il n'y a pas de génie comme Platini dans cette équipe. Il y a du talent où c'est tout à fait possible.
Favori, titrer l'équipe mercredi ou jeudi, cette semaine.
C'était un titre de une qui était un tout petit peu détourné de la réalité parce que nous, à l'intérieur, on disait que c'était l'Allemagne et l'Espagne favoris. Mais c'était le jury de joueurs et d'entraîneurs internationaux qui avaient désigné la France. C'est pour ça qu'on a donné les favoris. Je pense quand même que le vrai problème de l'équipe de France, c'est que elle a toujours eu besoin d'un joueur dominant pour remporter une compétition. Et j'ai peur que le joueur dominant soit Deschamps, en fait, au fond.
Alessandro Pedro, à part le Portugal, est-ce que la France peut gagner l'Euro?
Elle peut, parce qu'il n'y a pas une équipe
qui
survole son sujet. Je pense que la France fait partie d'un groupe d'outsiders avec l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, juste derrière l'Espagne et l'Allemagne. Et après, il y a ce dogme en disant en France, il y a toujours une grande compétition, un grand leader, Coppa, Platini, Zidane. Ouais. Et on voit que finalement, d'autres équipes arrivent à gagner sans joueur majeur. L'Allemagne l'a prouvé en 2014. Donc, pourquoi pas finalement gagner avec plus un collectif qu'une star ?
Sébastien Hazard.
Il n'y a pas de leader, il n'y a pas non plus d'équipe en Europe aujourd'hui qui sont très très impressionnantes, à part les Anglais qui n'ont rien gagné depuis 50 ans. Donc c'est difficile.
On ne sait pas vraiment. Si le ballon est rentré.
Si le ballon est, voilà, c'est même pas.
Qui seront alignés au tir au but
de la Coupe du Monde en 66. Ce sont des sélections faibles, comme Zlatan
avec la Suède.
Gareth Bale et la Pays de Galles, Lewandowski et la Pologne.
On verra en demi-finale.
Avant de se quitter, le clin d'œil de Yacine Bouzard, dialogue imaginaire entre Nicolas Sarkozy et Fellaini.
C'est dire que la France est un pays d'empreintes et de traditions chrétiennes. Et c'est ce pays que doivent respecter ceux qui veulent vivre en France.
Et la Tour Eiffel ici à Paris, ça va devenir un HLM. 7200 Algériens vont habiter dedans. Ça va être un bidonville. Les cartons, l'atoll, Algérien TV.
Si vous dites, il y a des Molenbeek dans les banlieues françaises, le politiquement correct, c'est de dire, mais vous jetez de l'huile sur le feu.
Eh, la Seine, ça va devenir un Oued. Oued El Harrach. Ça va être tellement dégueulasse, tu peux marcher sur l'eau. Ce sera la promenade des Arabes.
On voit le résultat de cette idéologie aujourd'hui dans le climat de désordre, d'anarchie et de perte générale d'autorité.
Et 5 fois par jour, là-haut sur la Tour Eiffel, Allahu Akbar Allah!
Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Dominique Sévérac, journaliste au Parisien. Vous publiez La face cachée des Bleus aux éditions Mazarine. Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe, et votre livre Au cœur des Bleus est publié chez Stock. Alexandre Pedro, journaliste à SoFoot, votre livre La grande aventure du vélo aux éditions Solonly paraîtra mercredi parce qu'il y a l'Euro, mais il y a aussi le Tour de France qui débute en juillet. Merci à Sébastien Hazard, journaliste au service des sports de Radio France. Notre regard extérieur qui nous a accompagné aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, dans les coulisses de l'émission, Chloé Leblond, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Véronique Lavalard, dans un instant le journal d'Anne Fauquemberg, suivi de répliques, christianisme et modernité, Alain Finkielkraut reçoit Rémi Brague et Philippe Diribarne. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture. Les joueurs ou les agents choisissent les journalistes ?
Oui.
Oui. Ouais. Oui, clairement.
Les agents, ouais. Ouais, les agents et les joueurs, ouais, clairement.
Et vous ne pouvez pas avoir un joueur sans passer par son agent.
Nous, SoFoot, on existe depuis 13 ans. On a créé Society l'an dernier. Et exemple très concret, on a réussi à avoir François Hollande dans le numéro 2 de Society. On a mis 1 an et demi pour avoir une interview de Paul Pogba. C'est plus facile de parler à un ministre qu'à un joueur de l'Olympique de Marseille.
Franchement, il était largement plus casse-couille que noir, Gentil Gana, quand même. C'était quand même plutôt ça qu'il a défini pendant des années et qu'il a handicapé pendant des années.